Chapitre 23. Pour la majorité des espèces, la place du mari se trouve dans le tube digestif de sa compagne. Tiré de l'article Spider-Woman, Burkhard Bidger, New Yorker, 5 mars 2007. Kimberly rentra à la maison toute guillerette. À 3h du matin, la GA400 était enfin déserte et elle filait en fredonnant et tapotait le volant des doigts en regrettant de ne pas être au volant d'une Porsche. C'était une de ces nuits où ce serait le pied de voir ce qu'elle avait dans le ventre en regardant l'aiguille s'envoler. Au lieu de cela, Kimberly maintenait sagement son break Passat en dessous des 110, mais cela n'empêchait pas son cerveau de s'emballer. Le lendemain à la première heure, Sal allait demander la création d'une cellule plurijuridictionnelle. Dinekara n'avait pas, comme par magie, avoué l'enlèvement et le meurtre d'une des prostituées de la liste de Sal, mais il ne s'était pas non plus exprimé ou comporté en innocent. Ils étaient sur une piste, et l'enregistrement de ce soir accréditerait leur thèse. Malheureusement, les patrouilles en uniforme n'avaient jamais croisé la voiture de Dinekara pour procéder à l'interception demandée. Cela ne la surprenait pas plus que ça. Malgré son vocabulaire brut de décoffrage, Dinekara lui donnait l'impression d'une intelligence froide et calculatrice. Même sur son terrain, il gardait sa casquette bien baissée et masquait sa plaque d'immatriculation avec de la boue. Elle soupçonnait qu'il avait dû redoubler de précautions en sortant de Sandy Springs. Pour autant, l'avis de recherche tenait toujours, et on pouvait donc espérer que quelqu'un localiserait le véhicule dans les jours à venir. Et Sal allait faire asseoir l'agent spécial Sparks et Ginny à la même table qu'un dessinateur pour mettre au point un portrait robot à faire circuler. Avec un peu de chance, d'ici une semaine, il connaîtrait le nom de Dinekara et l'essentiel de ce qu'il y avait à savoir sur lui. Et là, ça deviendrait drôle. Elle fredonna à nouveau « Tainted Love » en marquant le rythme du bout des doigts. Elle s'aperçut qu'elle était impatiente de rentrer chez elle, qu'elle avait envie de se garer dans son allée, de se précipiter dans sa maison. Envie, plus que tout au monde, de voir son mari. Voilà, fini les bêtises. À la minute où elle rentrerait, elle réveillerait Mac. Ils allaient régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Ils pouvaient s'installer à Savannah à titre d'essai. Ils pouvaient trouver une maison quelque part à mi-chemin. Elle pouvait étudier les possibilités qu'il y aurait pour elle dans une des antennes régionales du FBI. Il y avait une solution. Il y en a toujours. Il suffisait qu'ils se parlent. Et ensuite, elle lui sauterait dessus, parce qu'il n'y avait rien de tel qu'une bonne nuit de travail pour les moustiller. Kimberly se gara enfin dans son allée. La voiture de Mac n'était pas là. En revanche, en rentrant dans son salon, elle découvrit son père et sa femme, Rainey. Quincy, assis dans le fauteuil relax, feuilletait le journal. Rainey, recroquevillé dans un coin du canapé et manifestement à moitié assoupi, regardait une sitcom. Tous deux se levèrent à son arrivée. « Qu'est-ce que vous faites là ?» laissa échapper Kimberly. « Je me suis dit que ça faisait trop longtemps qu'on n'était pas venu », répondit simplement son père. Quincy avait toujours été imperturbable. Alors Kimberly se souvint. La dernière dispute avec Mac, son message au milieu de la nuit. Elle rougit et d'un seul coup se sentit démunie et mise à nu. Elle aurait dû rappeler son père immédiatement, lui dire de ne pas tenir compte de sa demande. C'était juste un mauvais moment à passer. Elle aurait dû faire quelque chose. « Tu travaillais ?» demanda Rainey en réprimant avec peine un bâillement. « Une affaire intéressante ?»« Non, enfin peut-être. » « À quelle heure êtes-vous arrivé? Vous avez mangé quelque chose? Est-ce que Mac vous a montré votre chambre? Je suis désolée de vous faire veiller aussi tard. »«
Nous sommes à l'heure de l'Oregon, » lui assura son père avec flegme, toujours assis dans le fauteuil, toujours le journal à la main. « Il n'est pas si tard. »
Rainey lui jeta un regard de côté, étouffa un autre bâillement et dit « Nous sommes arrivés peu après 10 heures.
Mac était là, mais il a été appelé. J'avoue que nous avons mangé tout le restant de pizza.
Nous ?
L'a repris Quincy. Ok, j'ai mangé toute la pizza. Le géant vert que voici, dit-elle en désignant Quincy du pouce, a fait une salade.
On a des légumes ? S'étonna Kimberly.
De la laitue iceberg, des oignons rouges et des tomates, répondit son père. Je suppose que ce sont des condiments dans cette maison, mais on peut en faire une salade composée si on veut.
Ah !
Rompant enfin la glace, Rainy traversa la pièce pour accueillir Kimberly en la prenant dans ses bras.
« Comment tu te sens ? » demanda-t-elle.
« Bien, bien, très bien.
Et le bébé ? » ?»«
La forme, il grandit, il donne des coups. »«
Tu le sens bouger ?»
La voix de Rainy monta dans les aigus, prit fugitivement les accents de regret. La belle-mère de Kimberly avait décidé à un âge tardif qu'elle voulait des enfants. Elle et Quincy avaient envisagé l'adoption, mais les choses ne s'étaient pas passées comme prévu. Jamais ils n'en parlaient. Mais Kimberly était relativement sûre que cette possibilité était désormais fermée à Rainy et que les seuls enfants qui peuplaient son existence étaient ceux qu'elle aidait en tant que défenseur de l'enfance maltraitée. La grossesse de Kimberly la rendait-elle jalouse ? Avivait-elle de vieilles blessures, de nouveaux regrets ? Rainy avait autrefois travaillé dans la police. Elle était experte dans l'art de ne rien laisser paraître et de tenir sa langue. Quoi qu'elle pût ressentir en son fort intérieur, il y avait peu de chances que cela transparaisse jamais.
« Tu veux toucher ?» demanda Kimberly.
« Oui. »
Elle prit la main de Rainy, la posa sur son côté gauche, juste sur la courbe. Bébé McCormack, en pleine gymnastique nocturne, ne déçut pas.
« Fille ou garçon ?» demanda Rainy. « À ton avis ?»
Quincy avait quitté le fauteuil et se tenait à côté de sa femme. Jamais il ne demanderait, alors Kimberly lui prit la main et la colla sur son flanc. Le bébé lui donna un nouveau coup. Son père tressaillit, retira brusquement sa main et sourit.
« Un garçon !» dit-il immédiatement.
Il remit sa main, paume à plat sur le flanc de Kimberly.
« Je dirais garçon aussi, » renchérit Rainy.
« Les filles sont censées voler la beauté de leur mère et tu m'as l'air encore bien jolie. » Kimberly faillit rougir.
« Bien, bien, bien. Donnez donc un peu d'air à la jolie maman. Et un verre d'eau. »
Elle se dirigea vers la cuisine, prit un verre d'eau pour elle-même, un autre pour Rainy. Quincy était un buveur de café invétéré, alors, même s'il était 3 heures du matin, elle lui en prépara. Ils s'installèrent tous à la table de cuisine, charmant tableau familial, sauf qu'aucun d'eux n'avait songé à allumer le plafonnier. Ce seul fait en disait assez long sur leur métier d'élection. « Mac a dit quelque chose avant de filer ?» demanda Kimberly.
« De ne pas l'attendre. »
Kimberly grogna, se mordilla la lèvre inférieure en essayant de deviner ce qui pouvait se passer. Elle ne savait pas sur quoi Mac travaillait en ce moment. Ils avaient parlé de ses affaires à elle, pas de celles de Mac.
« Et ta nuit ?» demanda son père.
« Une planque. » Le type n'a pas avoué comme par enchantement, mais il a fichu une raclée à notre informatrice, ce qui semble indiquer que nous sommes sur la bonne piste. Quincy leva un sourcil intéressé. Quel genre d'affaire ?
Meurtre en série. Des prostituées ont disparu. Notamment 6 filles dont les permis de conduire ont été déposés sur le pare-brise d'un agent spécial. Nous pensons que le type pourrait être notre homme.
Le problème, reprit Kimberly en se mordillant à nouveau la lèvre, c'est que nous n'avons retrouvé aucun des corps. Vu la vie qu'elle mène, la défense pourra prétendre que les filles sont simplement parties voir ailleurs. Ça donnerait un procès très confus. Quoique ça pourrait marcher, en fait, si on obtenait que la cassette constitue une preuve recevable.
« La cassette ?» intervint Rainy. « Un enregistrement audio de l'assassinat d'une des disparues.
En tout cas, on jurerait que c'est un assassinat. »
Imaginez ça. L'individu demande à chaque victime de choisir la suivante. En l'occurrence, la femme, Veronica Jones, donne le nom de sa fille, Ginny Jones, laquelle est aujourd'hui notre informatrice.
Rainey proféra alors une évidence. Mais il n'a pas tué Ginny Jones. À l'écouter, elle l'a convaincu de ne pas le faire. L'individu a un faible pour les araignées. Ginny aussi. Étant donné leur passion commune, il l'a laissée en vie. Si on peut appeler ça une vie, de se prostituer jusqu'à la fin de ses jours en versant la moitié de ses revenus.
Il reste aux commandes, conclut Quincy. Exactement. Le monsieur aime bien commander.
Je peux écouter la cassette ? Demanda Quincy.
Allez au bureau, je pourrai la prendre demain. Comment il a demandé à la femme de choisir la victime suivante ?
En la torturant. Il disait qu'il s'arrêterait quand elle lui donnerait le nom de quelqu'un qu'elle aimait.
Quincy avait l'air sombre. La victime a obtempéré immédiatement ?
En fait, elle a essayé de lui donner un nom bidon, mais quand il l'a harcelée de questions, pourquoi ce nom, pourquoi elle tenait à cette personne, elle a perdu pied. On entend qu'elle est stressée, désorientée par la douleur. C'est déjà difficile de réfléchir dans ces conditions, alors mentir. Donc elle a donné sa propre fille.
Ça sous-entendrait que toutes les victimes ont un lien quelconque aux yeux du type.
On y travaille. En fait, un agent du GBI y travaille. Sal sait déjà que 3 des prostituées habitaient le même appartement. Elles ont disparu les unes après les autres. Mais c'est clair qu'il nous manque des pièces importantes du puzzle. Il y a sans doute des filles qui sont vraiment parties au Texas dans notre liste des disparues, et d'autres qui ont disparu sans que nous le sachions encore.
Elles viennent toutes d'une zone géographique précise ?
Demanda Rainey.
À quoi ressemble le milieu de la prostitution en Géorgie ?
Il est vaste et varié. Il y a celles qui font le trottoir dans les quartiers chauds, comme Fulton Industrial Boulevard, pour la plupart noirs, pour la plupart toxico. Ensuite, il y a les salons de massage dans des villes comme Sandy Springs, pour la plupart asiatiques, pour la plupart esclaves sexuels. Et puis, il y a les boîtes, où on trouve un peu de tout. Blanche, latino, noir, asiatique, drogué, pas drogué. Et pour finir, les activités habituelles autour de la base de l'armée de l'air à Marietta. Les filles du coin qui proposent quelques services en extra tout en servant à table. La Géorgie est un état immense avec une grande diversité géographique et socio-professionnelle. Si notre individu joue à la marelle dans ces milieux clandestins, il va falloir beaucoup échanger avec un paquet de services de police pour faire des rapprochements. Ce qui explique en partie pourquoi il a réussi à passer inaperçu pendant tout ce temps.
« Que savez-vous d'autre sur lui ?» reprit Quincy.
« Bon, l'ayant vu ce soir pour la première fois, le milieu de la trentaine, aguerri, capable de se déplacer, de prendre son temps, de traquer sa cible.
À en juger par l'enregistrement, je dirais que Veronica Jones n'était pas sa première victime. Il a eu le temps de peaufiner sa méthode. » Physiquement, il est blanc, 1m75, 1m80, quelque chose comme 85 kilos. Pas immense, mais mince, nerveux. Le genre qui aime vivre au grand air. Chaussures de randonnée, jean, le 4x4. Chasseur ? Dans cet état, il y a de fortes chances. Un solitaire.
Curieusement, nous ne pensons pas. L'agent spécial du GBI, dont je parlais, a trouvé 2 enveloppes sur son pare-brise. Les 2 contenaient les permis de conduire de prostituées disparues. Étant donné qu'il n'y a eu ni message, ni autre tentative de communication, Sal pense que les colis venaient peut-être d'un proche du tueur, et non du tueur lui-même.
Quincy haussa un sourcil, étudia la question.
Ça se tient. À supposer qu'ils entrent en contact, la plupart des tueurs cherchent à nous narguer un peu, tant qu'à faire.
Comme tu dis. Malheureusement, les enveloppes n'ont fourni aucun indice matériel. Donc nous devons encore identifier et retrouver le tueur par nos propres moyens. Mais quand nous saurons de qui il s'agit, nous serons peut-être en mesure d'identifier un conjoint ou un membre de la famille qui pourrait nous aider.
Profil socio-économique ? Poursuivit Quincy.
Difficile à cerner. Il parle comme un voyou, mais il peut être aussi très concis quand il veut. Et le 4x4 est luxueux. Un Toyota Forerunner, série limitée. Les vêtements aussi. Il a l'air décontracté, en jean et chemise à carreaux, mais c'est de la qualité.
Peut-être un ancien péquenaud passé jeune cadre dynamique.
Il est monté dans l'échelle sociale, apprécie les meilleurs matériels, conclut Rainey.
Je crois.
Ça va nous ramener à une histoire d'argent, dit Rainey en regardant Quincy. Un tueur expérimenté comme ça, au moins 10 victimes.
faut voir la somme de temps et d'énergie que ça lui prend. Préparer le matériel du meurtre, partir en chasse, brouiller les pistes, cacher les corps, c'est un boulot à plein temps. Surtout s'il les traque un moment.
Il n'a pas le choix, intervint Quincy.
Laisser la victime A choisir la victime B l'oblige à se livrer à une longue reconnaissance sur la victime B avant de pouvoir passer à l'acte.
Donc il est très pris, continua Rainey. Ça lui demande beaucoup de travail.
Ce qui signifie qu'il n'occupe probablement plus un emploi rémunéré et qu'il doit se tourner vers d'autres activités pour financer son train de vie.
Comme de jouer les macros, murmura Kimberly.
Oui. Ou bien l'escroquerie, le cambriolage, la drogue.
Il y a eu cette affaire, il y a quelque temps, d'un type arrêté par le Trésor pour contrefaçon de chèque. Quand ils ont fouillé son garde-meuble, ils ont retrouvé des cartons entiers de photos de femmes ligotées et bâillonnées qu'il avait agressées sexuellement. Pour finir, c'était un sadique sexuel classique qui avait sévi pendant des années sur la côte Est, où il kidnappait, violait et tuait des femmes. Contrefaire des chèques n'était qu'une manière de couvrir ses frais.
Tu as déjà entendu parler d'une association qui s'appelle Necro Search International ? Demanda Quincy.
Kimberly fit signe que non.
On les appelle souvent les Amis des Cochons. C'est une organisation à but non lucratif, essentiellement composée de scientifiques et de policiers à la retraite. J'envisage de les rejoindre.
Voilà autre chose, dit Rainey avec humour.
Mais Kimberly regardait son père avec intérêt.
Quel est leur but ?
Retrouver des cadavres.
Ils sont surtout connus parce qu'ils enterrent des cochons pour mettre au point des techniques de repérage des tombes clandestines. Ce sont eux aussi qui ont localisé le corps de Michelle Wallace, près de 20 ans après sa disparition dans le Colorado.
Michelle Wallace ? Répéta Kimberly en fouillant rapidement sa mémoire, mais en vain.
Désolée, ça ne me dit rien.
Tu étais trop jeune.
1974. Wallace avait 25 ans et vivait à Gunnison, dans le Colorado.
Randonneuse expérimentée, elle est partie en week-end dans le parc de Schofield avec son berger allemand. En regagnant son véhicule, elle a croisé deux hommes dont la voiture était en panne et leur a proposé de les emmener. On ne l'a plus jamais revue. D'après l'un d'eux, Chuck Matthews, Wallace l'avait déposé en ville et avait continué avec son ami, Roy Melanson. Celui-ci a été arrêté peu de temps après sur mandat d'amener. La police a retrouvé en sa possession le permis de conduire de Wallace, son matériel de camping, jusqu'au sac pour son chien. Plus il fouillait dans le passé de Melanson, plus les policiers étaient inquiets. Le type était recherché dans le cadre de 3 affaires de viol, plus un meurtre au Texas. La police a commencé à lui mettre la pression, tout en lançant une vaste fouille pour retrouver le corps de Wallace dans le parc de Schofield. Et tu sais ce qui s'est passé ?
Quoi ?
Rien. La police n'a pas trouvé la moindre preuve qu'il y avait eu meurtre. Moyennant quoi, elle n'a pas pu saisir le tribunal. Melanson prétendait que Wallace lui avait tout offert. Qui pouvait le contredire ? Melanson a finalement été jugé coupable d'escroquerie pour avoir encaissé des chèques volés, et il a fait 13 ans avant d'être relâché. La mère de Michelle Wallace, en revanche, s'est suicidée en laissant un message demandant, au cas où la dépouille de sa fille serait retrouvée, qu'on veuille bien l'enterrer à côté d'elle.
Mon Dieu.
En 1979, toujours dans le parc de Schofield, un autre randonneur est tombé sur une masse de cheveux au milieu d'un sentier. Encore attaché au cuir chevelu et coiffé en 2 nattes impeccables, exactement comme celles que portait Michelle Wallace. La police a mis ça en magasin et les choses en sont restées là. Jusqu'en 1990. Une nouvelle enquêtrice, Cathy Young, a contacté Necro Search International à propos de cette affaire. Necro Search a fait appel à un botaniste, un anthropologue judiciaire, un archéologue et d'autres spécialistes. Le botaniste a étudié les matières végétales retrouvées dans les nattes et, en se fondant sur les différents types d'aiguilles et d'écorces, a établi que, dans tout le parc, il n'y avait que quelques secteurs où l'on trouvait ces espèces d'arbres dans les mêmes proportions. Les scientifiques se sont concentrés sur ces zones et, après quelques jours d'exploration méthodique et harassante, ils ont découvert le crâne de Wallace. En septembre 1993, Roy Melanson a finalement été jugé coupable du meurtre. Et en avril 1994, la dépouille de Michelle Wallace a enfin été ensevelie aux côtés de celle de sa mère.
« Seigneur ?» murmura Kimberly qui détourna un instant le regard.
Cette histoire l'avait prise à la gorge. Elle avait horreur de ça. « Là où je veux en venir, » continua son père, « c'est que les corps ont une importance. Si la théorie est la bonne, il y a au moins une demi-douzaine de cadavres planqués quelque part. Si la police ne les retrouve pas par les méthodes classiques, peut-être qu'un bon expert peut le faire. » Kimberly réfléchit à la question. On aurait bien une nouvelle piste. Un agent spécial a récupéré une chaussure de randonnée boueuse dans la voiture du mec. Je pensais contacter un de mes copains de l'Institut de géologie, histoire de voir si on ne pourrait pas faire analyser un échantillon de terre, ce genre de choses. « Chercher des traces de chaux !» s'exclama immédiatement Quincy. « Je sais. Et trouver un botaniste. Il y a souvent beaucoup de fougères dans les ravins. Peut-être un entomologiste ou un arachnologue aussi. Tu parlais d'araignée. « Je sais, papa, » répondit Kimberly avec impatience. « Je vais encore le donneur de leçons ?» demanda Quincy en souriant. Elle se reprit. « Non, tu essaies de m'aider. Et Dieu sait que dans cette affaire, on en aurait bien besoin. C'est juste qu'il est tard. Bien sûr, le bébé. Tu devrais dormir. Oui, je devrais. » Mais personne ne quittait la table. Kimberly but encore de l'eau. Elle pensait aux araignées, à la terre, aux endroits où les tours et les détours d'une affaire peuvent vous mener. Comme la dernière fois, où elle avait travaillé avec l'Institut de géologie et où elle s'était retrouvée à jouer les cabris au milieu d'empilements rocheux infestés de crotales, à faire de la spéléo dans une grotte polluée, à traverser à toutes jambes un marécage en feu. Sa vie quand elle était plus jeune, plus rapide et responsable de sa seule personne. « Vous restez combien de temps ?» songea-t-elle enfin à demander. « Nous n'avons pas fixé de date de retour, » répondit Rainey avec désinvolture en échangeant un regard avec Quincy. « Nous n'avons jamais passé beaucoup de temps en Géorgie. On s'est dit que ça pourrait être sympa de faire un peu de tourisme. » Kimberly les regarda avec scepticisme. « Et vos affaires à vous ?»« Les joies d'être consultant indépendant, » lui assura son père. « On peut toujours emporter son travail avec soi. » « Parce qu'il est toujours incapable de le laisser à la maison, » se moqua Rainey. Kimberly acquiesça, finit son verre. Rainey avait terminé le sien. « Je vous accompagne à votre chambre, » dit-elle en ramassant les verres de chacun et en guidant ses hôtes dans le couloir. Rainey entra la première dans la chambre d'amis, façon discrète de laisser Kimberly et son père un instant en tête-à-tête. Kimberly ne savait jamais quoi dire. Si son père excellait dans l'art du silence, elle-même se sentait trop souvent suffoquée par tous les mots qui se bousculaient dans sa gorge. Elle voulait lui demander s'il était heureux, si toute une vie de dévouement à son métier avait valu ce qu'il avait perdu en cours de route. Elle voulait l'interroger sur sa mère, lui demander comment c'était lorsque, jeune couple, ils attendaient leur premier enfant. Elle voulait tout lui demander. Alors elle ne lui demanda rien du tout. Son père se pencha vers elle et l'embrassa sur la joue. Un instant, ils restèrent tous les deux comme ça, les yeux clos, front contre front. « Merci d'être venu, » murmura Kimberly. « Quand tu veux, » répondit son père.